tout le monde. Enfin, Spectaculaire commence à 14h05 ce mercredi 23 janvier 2019. C'est pour l'émission numéro 185. Christophe Rollin au micro, Gérald est présent et nous avons bien un invité, le chef de projet de la magnifique exposition Hugo Pratt, Ligne d'horizon, qui se tient au Musée des Confluences, un musée des cultures et des civilisations. Cette exposition a commencé en avril 2018, mais rendez-vous compte, elle n'est pas encore terminée, elle aura duré une éternité, c'est très bien quand on parle d'Hugo Pratt et de Corto Maltese. Elle se prolonge, elle se continue jusqu'au dimanche 24 mars. Donc notre invité Yoann Cormier pour en parler jusqu'à 15h, comme tous les mercredis. Commençons avec de la musique, comme ça c'est très bien. Avec, je crois Gérald, tu m'as indiqué la milonga. Commencer alle prese con una verde milonga. Verde plutôt, je crois, hein, peut-être verde milonga. Nous diffusons ce petit extrait pour commencer l'émission qui a lieu jusqu'à 15h comme tous les mercredis. Vous nous écoutez sur le 102.2 de la bande FM à Lyon ou bien vous le faites sur radiocanu.org. Alors, est-ce que ça va démarrer? Eh mince, cette première introduction n'a pas l'air de fonctionner. Bon, eh bien, essayons autre chose. Libertango, pourquoi? Eh bien, parce que Gotan Project et... Non, c'est Astor Piazzolla, oui, je confonds. Parce que c'est en rapport, hein, il me semble, Hugo Pratt, de toute façon. Sur quoi Hugo Pratt? Hugo Pratt n'a-t-il pas écrit? Nous changeons, nous ne sommes plus sur de la milonga, mais nous restons sur du tango tout de même. Vous allez voir, c'est très bien et c'est pareil. J'ai mis la première.
Bonjour tout le monde, comme dirait Christophe Rollin et Toufi Kaken d'ailleurs aussi. Vous êtes bien sûr Radio Canu, nous recevons Yoann Cormier, chef de projet, pour nous parler de la magnifique, inoubliable exposition Corto Maltese Hugo Pratt, Ligne d'horizon. Avant de rentrer au cœur de notre sujet, vous pourriez peut-être faire un bref portrait de vous. On vient d'écouter Tango, c'était donc Astor Piazzolla. On a essayé de mettre une milonga de Paolo Conte, un ami de Hugo Pratt. Vous allez nous parler de tout ça, mais d'abord, qui êtes-vous, monsieur Johan Cormier?
Bonjour, bah déjà non, c'est plutôt bien cette fausse piste de départ, parce que Piazzolla, c'est effectivement quelqu'un que Pratt écoutait quand il était en Argentine. Et il parlait de tristesse allègre, comme ça, quand il écoutait. Et ça l'inspirait énormément quand il dessinait. Donc, non, c'est plutôt une bonne entrée en matière.
Peut-être même mieux.
Alors, moi, je m'appelle donc Johan Cormier. Je suis chargé de projet au Musée des Confluences et j'ai travaillé sur cette exposition Ligne d'horizon. Peut-être un mot sur mon métier, parce que c'est pas forcément un métier qui est très identifié. Moi, mon rôle, c'est de. Voilà, on me confie un sujet d'exposition, là, en l'occurrence, un projet qui était déjà dans la tête de quelques personnes, et je vous en parlerai plus tard. Mm-hmm. Et à partir de cette idée, de ce sujet, moi, je dois un peu mettre en forme, orchestrer, si vous voulez, avec l'aide d'une équipe projet qu'on constitue en interne, et arriver d'un sujet à. Comment je pourrais dire, une narration, un récit. C'est quelque chose qui revient comme une espèce de. D'angle fort au Musée des Confluences et d'essayer de raconter une histoire, d'accompagner le visiteur dans cette histoire. Mmh. Et donc ce récit se construit avec des collègues qui travaillent dans les services des collections, des collègues qui travaillent dans les services de la régie, dans la muséographie, c'est ce qu'on appelle muséographie, c'est tout l'art de mettre en scène tout ça. On travaille aussi avec des scénographes extérieurs, internes parfois, on a un scénographe au musée. Et cette espèce de travail collectif qui permet un croisement, une multiplication des regards qui est intéressante, ça donne lieu à ce qu'on appelle une exposition, voilà.
Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes sous la tutelle d'un commissaire d'exposition, ou deux, il y en a deux en l'occurrence, un co-commissaire, oui. Michel Pierre et...
Alors, et Patricia Zanotti,
voilà.
qui est à l'origine de cette idée, hein, je tiens à le dire, de cet angle un peu particulier qui n'avait jamais été traité, d'aller faire dialoguer des objets réels, de musées, si on veut, des collections de musées, des objets ethnographiques, des territoires dessinés par Pratt, et puis ses dessins, et d'aller quelque part interroger la question des racines de son inspiration. Et ça n'avait jamais été fait.
C'est très bien, vous entrez tout de suite dans le cœur de l'émission, mais peut-être encore quelques instants tout de même sur Johan Cormier, sur vous-même. Comment vous arrivez à ce... Parce qu'en plus, votre titre, votre profession, ce n'est pas chef de projet, ça c'est pour ce projet-là, mais oui. Sinon vous êtes... ce n'est pas non plus conférencier le terme, c'est...
Régisseur d'exposition.
Non, alors tout ça c'est des métiers, mais c'est pas le mien. Non, chargé de projet d'expo, c'est... quelque part une particularité aussi du Musée des Confluences.
C'est-à-dire d'ailleurs, il faudrait peut-être en dire 2-3 mots de celui-ci, oui. Dans quelques instants. On arrive au 5e anniversaire, non, pas encore.
Alors, en décembre, on sera aux 5 ans d'ouverture.
Aux 5 ans.
Donc,
ouais.
C'est une institution qui est très très ancienne, hein, mais qui, voilà, sur le musée aura 5 ans bientôt. Et on a cette particularité de, voilà, de fonctionner en équipe projet autour des expositions avec, avec des gens de la programmation, des gens de la médiation, des gens des collections. Et le chargé de projet que je suis, on est, si je dis pas de bêtises, on doit être 6 chargés de projet. On orchestre un peu tout ça, mais on n'a pas le profil type des musées conservateurs comme on peut le voir ailleurs. Et on a aussi un rapport au commissariat extérieur, pardon, un peu différent. C'est-à-dire que là, sur cette exposition Hugo Pratt, on a fait venir des commissaires qu'on a appelés commissaires invités, mais ça n'est pas forcément une constante. Quelquefois, le chargé de projet fait office de commissaire interne, si vous voulez. Mmh. Donc ça se rapproche plus ou moins d'une logique de commissariat interne. Et on s'adjoint les services de comités scientifiques qu'on va chercher sur tel ou tel domaine, des spécialistes. Et voilà, c'est assez difficile à définir, c'est un métier génial, évidemment, parce oui. qu'on plonge dans des sujets, et Pratt, je peux dire que j'ai vraiment plongé dedans, parce que c'est un sujet c'est un puits, quoi.
Vertigineux.
Et puis tous les 2 ans, comme ça, on est amené à découvrir, enfin, c'est à mon avis, un des plus beaux métiers du monde.
Et alors, comment y êtes-vous arrivé? Attends, voilà. il faut poser cette question, comment vous y arrivez, hein? Alors, vous êtes un tout jeune homme, là, vous sortez des études, plus ou moins, presque, à peu près.
C'est gentil, ouais, mais
grosso modo.
Non, ça fait un petit moment que je fais ce métier. À Confluence, moi, j'ai intégré le musée, je pense, à la meilleure période qui soit, c'est-à-dire 2 ans avant l'ouverture au public. En pleine effervescence de production, je suis arrivé en juillet 2012, on a ouvert nos portes en décembre 2014, si je ne dis pas de bêtises, et ces 2 années-là, c'était vraiment un moment assez unique, c'est-à-dire qu'un musée de cette ampleur-là qui ouvre, après quelques années hein, de chantier, on connaît cette histoire, mais là c'était vraiment l'euphorie de l'ouverture. un moment vraiment génial, et je pense que ça a aussi soudé une équipe à l'intérieur du musée de manière vraiment définitive, quoi. Et cette expérience-là, c'était vraiment super. Donc moi, j'ai rejoint à ce moment-là l'histoire, l'aventure, Confluence. Auparavant, nos parcours, je vous parlais de 6 chargés de projet, ils sont assez divers. Moi, il est relativement classique. J'ai fait des études de, si ça vous intéresse, de gestion du patrimoine culturel. Ouais. Et puis j'ai commencé à monter des petites expos par-ci par-là et dans différents endroits pour différents musées. Et je suis arrivé à ce poste qui est, mais encore une fois, qui est passionnant. Quoi.
Dernier point vous concernant peut-être, vous n'avez pas fait ces études à Lyon. Voilà.
Alors non, pas moi. Moi, je suis de l'ouest de la France. Moi, j'ai fait mes études à Angers. Voilà.
Très bien. Pour évoquer donc peut-être plus précisément ce musée quelques instants avant d'entrer dans le vif du sujet avec Corto Maltese, là j'ai la brochure Musée des Confluences septembre-janvier 2018-19.
Oui.
Il y a combien d'expositions actuellement? Il y en a 4-5 qui tournent.
Alors question piège, il y en a 4-5.
Je les ai sous les yeux, je pourrais trouver ça. Il y a Coléoptère qui a commencé il y a peu, Coléoptère, insecte extraordinaire, du 21 décembre 2018 au 28 juin 2020. C'est quand même beau, c'est duré. Actuellement au Musée des Beaux-Arts, on en parlera peut-être prochainement, se tient l'exposition Claude, un destin singulier, l'empereur romain né à Lyon. 41 à 54 après Jésus-Christ. L'exposition a commencé début décembre et se termine lundi 4 mars. Donc ça fait 3 mois, c'est un peu bref. Vous, Corto Maltese, elle a commencé en avril, hein, je crois, c'est ça, il me semble.
Oui,
c'est...
alors, si vous voulez, à un moment donné, l'enjeu, c'était de se dire ces expos qui durent 3 ou 4 mois, si on peut les allonger un peu, c'est mieux pour tout le monde. Parce qu'on a une logique quand même de nombreuses expos qui sont ouvertes en même temps, donc pour quelqu'un qui revient au musée régulièrement.
Yokai no Shima également, Esprit du Japon, oui. Jusqu'au 25 août 2019. Elle a commencé en septembre dernier, je crois.
On a ouvert il y a 4 ans et demi, quelque part, on se cherche, hein, en termes de. On essaie d'évaluer la meilleure option possible en termes de durée. On était parti sur des temps très courts. Pour l'anecdote, moi j'ai travaillé sur une exposition qui s'appelait L'Art et la Machine, qui avait vraiment été un très beau projet, qui avait beaucoup plu, mais qui avait duré. Pour des raisons aussi liées, parce qu'il y avait beaucoup de pièces qui étaient empruntées à l'extérieur, donc il y a beaucoup de contraintes dans ces cas-là, mais elle avait duré très peu de temps, je crois que c'était aux alentours de 3-4 mois. On a eu beaucoup de retours de visiteurs qui nous disaient le bouche à oreille fonctionne, sauf qu'au moment où on vient, c'est fini. Donc on s'était dit non, il faut passer à un autre format. Donc on a testé beaucoup plus long. Et puis je pense qu'on va revenir sur des choses un peu médianes. Je pense que 9 mois pour une exposition, 10 mois, c'est quelque chose qui permet aux visiteurs de venir, de revenir éventuellement, si ça, voilà, avec toutes les personnes à qui ils voudraient faire partager ça.
Avec tout type de tarif, un tarif plein à moins de 10 euros. Si on arrive à 17h à 6
voilà,
euros,
on a un pass annuel qui est très avantageux.
C'est jusqu'au 24 mars, ça laisse du temps pour y aller. Et il y a eu déjà plus de 400 000 visiteurs, ce qui est énorme.
On est aux alentours de, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais de 400 000 visiteurs, c'est ça, qui sont déjà passés dans l'exposition. Ce qui, pour une exposition où on met en avant un auteur, évidemment, qui est un maître, mais dont le nom n'est pas forcément. C'est pas Hergé. Hein.
C'est daté.
Donc,
aussi.
Quelque part. Alors, il y a Corto est de retour en force, là, avec les deux nouvelles rééditions, bientôt une troisième.
Et il y a un film qui devrait sortir, j'ai entendu dire, Mia Jovovich, et puis je ne sais plus quelle encore, le casting se fait plus ou moins.
Disons que ça fait partie des infos qui circulent sur le web, à vérifier, hein, mais je ne sais pas si c'est totalement officialisé,
et
cette
puis,
histoire.
Est-ce que ce serait bien? C'est quand même beau de se perdre dans les. Toi, Gérald, tu pensais bien ce long métrage animé, je sais pas comment.
Oui, il y a eu une production aussi de Pascal Morelli, La Cour secrète des Arcanes, un film d'animation qui est assez intéressant, avec des petits bonus. Comment dessiner, si vous voulez apprendre à dessiner Corto Maltese, à la manière
très
du Gros Pratt.
Il y a la voix de Richard Berry qui nous accompagne comme ça un petit peu.
Et c'est assez bien fait, en fait, ça respecte assez l'esprit, il date de 2002.
Oui, c'est ça.
Et donc, Gérald, nous continuons à interrompre nos invités. Vous étiez sur la durée des expositions, enfin du moins le Corto qui n'est pas Hugo Pratt, qui n'est pas Hergé. Donc, vous avez, je crois, c'était le propos, une durée plus longue pour cette exposition. Enfin,
Ce qui était plutôt une victoire pour nous, parce que c'est vrai que quand on expose des œuvres originales, là c'est le cas, on a 130 planches originales.
Elles sont grandes.
Ce qui est énorme, hein, avec des aquarelles, des planches avec de l'encre. Il se pose toujours la question du temps d'exposition par rapport à la conservation des objets. En général, la règle dans les musées, c'est que pour des dessins, quand il y a de la couleur notamment, ça va généralement pas au-delà de 3 mois, 4 mois. Donc nous, évidemment, en termes d'exposition, on fait tout ce qu'il faut pour conserver les œuvres de manière la plus la meilleure qui soit, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'éclairage UV, etc. Enfin, je vous passe les détails techniques, mais les planches ne souffriront absolument pas de cette exposition.
Et on les voit bien,
pourtant. On les voit
très bien.
On a soigné l'encadrement, vraiment, pour éviter tout type de reflets, etc. Et on a joué la proximité avec ces œuvres. Mais je tiens à vraiment remercier et à saluer au passage Patricia Zanotti, justement, et Kong, les ayants droit, qui sort aujourd'hui l'œuvre de Pratt, parce que c'est grâce à eux, à leur souplesse aussi, qu'ils ont bien compris l'enjeu pour nous d'exposer longtemps. Et grâce à eux, on a eu l'opportunité de présenter ça pendant un an presque.
Pourquoi ce nom de Kong pour la société les ayants droit de
Ça reste un peu un mystère pour moi, pour être honnête.
C-O-N-G, c'est assez...
Il a une grande culture cinéma, hein, l'âge d'or d'Hollywood. Pratt, c'était vraiment quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Il passait ses après-midi au cinéma à un certain moment de sa vie. Est-ce que King Kong aurait à voir là-dedans? Ça s'écrit absolument pas pareil. Et sincèrement, là, j'extrapole totalement comme lui fait sur sa propre vie.
Musée des Confluences auquel on peut se rendre de toutes les manières possibles. Je crois que la petite brochure l'indique, me semble-t-il. On peut y aller à vélo, on peut y aller en bus, on peut y aller en métro, tramway T1, les bus C7, C10, 15 et 63, voiture, il y a un parking Musée des Confluences, vélo, il y a une station sur le parvis du musée, il y a également le métro qui descend ou bien à Perrache ou alors de l'autre côté à Debourg, et puis donc le tram T1 balaye ces deux stations et puis voilà.
Et des trottinettes.
On peut tout faire.
Qui ressemble au générique de Psycho de Hitchcock d'ailleurs, c'est un peu pénible à force.
Le quoi?
Oui. Les trottinettes électriques, là, vous n'avez pas entendu? Moi, j'ai tout de suite pensé à ça. Nino, c'est quoi?
Nino Ferrer, Gérald, concert chez Harry, c'est ça?
Nous voilà, avec un dessin qui ressemble curieusement à la patte d'Hugo Pratt. C'est peut-être lui qui a la pochette.
Il a les cheveux longs.
Je pense que c'est un de ses dessins.
C'est possible. L'expert est ici et a parlé.
Nous allons écouter. C'est extrait, si, c'est indiqué. Illustration extraite de l'ouvrage Corto Maltese en Sibérie. Hugo Pratt ayant droit
à
Casterman. Il ressemble à Nino, c'est l'un des capitaines qui décède. Oui. Il y a un paquet de morts quand même. On va entrer dans la...
On écoute la Rua Madureira, encore pour voyager, avant de rentrer au cœur de l'exposition et de la scénographie et des enjeux.
Tu parlais de ton pays. Je n'oublierai pas la douceur de ton cœur dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Tant d'autres noms inconnus.
première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire, mais je n'y comprenais rien. Je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la loi Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé.
Madureira, Nino Ferrer, enregistré en public, extrait des concerts du 13 et 14 juin 1995, enregistré par les studios Harrison. On ne va pas faire toute la liste des musiciens. C'était Concert chez Harry, album illustré pour l'occasion par Hugo Pratt. Et nous recevons le chef de projet de cette superbe exposition, dont on va maintenant parler en manière plus précise, monsieur Johan Cormier. À vous la parole.
Rappelle Gérald le lieu où se tient cette exposition.
À la Confluence.
Le titre, il est beau quand même.
Ligne d'horizon.
Hugo Pratt, on évoque beaucoup
au pluriel, ligne d'horizon.
On évoque beaucoup le marin, ce personnage corto-maltaise, mais il y a également d'autres personnages de bande dessinée dans cette exposition. Et la date, Gérald, sais-tu quand ça se
termine ? Jusqu'au 24 mars.
Alors, dimanche 24
allez-y,
mars.
Allez-y, même plusieurs fois, je pense
il y a encore du temps.
C'est une exposition qui se revoit, qui se savoure. Elle est riche d'un point de vue scénographique, parce qu'exposer la bande dessinée, c'est la première fois qu'on l'expose comme ça. En fait, c'est quand même une nouveauté de scénographique.
Oui, c'était une des grandes questions au moment de préparer ce projet. C'était comment exposer de la BD. Nous, on n'avait pas vraiment cette culture-là. Hein. Musée des Confluences, c'est pas un musée avec des collections de bandes dessinées. Et il y avait ce choix au départ assez clair. Quel rapport aux planches originales ? Moi, je trouvais qu'évidemment, avec les commissaires invités, on était tous d'accord, il fallait proposer des planches originales. Il y a une émotion qu'on ne peut pas retrouver dans les agrandissements, etc. Et en même temps, c'est quand même un format qui est répétitif. 130 planches originales, les 5 premières, elles sont très émouvantes, les 10 suivantes, ouais, elles sont passionnantes. Et au bout d'un moment, quand même, il y a une certaine redondance. Et donc, on s'est dit, on va quand même offrir cette possibilité d'aller chercher les planches originales, et on en reparlera peut-être, mais ces aquarelles qui sont magnifiques, oui. Et je pense que c'est un des principaux retours très positifs qu'on a sur ce projet, c'est le rapport aux aquarelles et la découverte d'un aquarelliste de génie qui n'est pas forcément connu pour ça, parce que dans albums ça transparaît moins, évidemment.
Sur du papier Canson, il me semble.
Un grand artiste.
Sur tout type de support. Ouais.
On aperçoit le grain du papier.
Et l'encre de Chine.
On traite vraiment ces planches originales comme des documents. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, l'encadrement, il n'est pas là pour... c'est pas un encadrement décoratif qu'on a souhaité, mais quelque chose qui disparaît avec ce gris anthracite qui se fond avec le mur du fond, pour que vraiment l'œuvre originale, avec ses imperfections, hein, ces documents qui sont parfois un petit peu un petit peu froissés, un petit peu et en fait il y a toute la poésie de son document original qui est bon, on parle de bande dessinée, donc qui est voué à autre chose, c'est-à-dire à avoir une vie de publication, d'édition, etc. Faut savoir qu'il y a bon nombre de dessinateurs à l'époque, dans les années 70, dont les planches originales, une fois transmises à l'éditeur, finissaient à la corbeille à papier. Hein. Mmh. Donc c'est vrai que ce statut de la planche de BD, il a changé, heureusement. Mmh. Je pense qu'un dessinateur aujourd'hui, quand il a une petite renommée, il sait que sa planche,
il les garde,
il la garde précieusement. Il lui donne à peu près les mêmes types de conservation qu'un musée le ferait par la suite. Mais et il sait aussi que c'est potentiellement une source de revenus pour lui. À l'époque, c'est pas du tout ça. À l'époque, Hugo Pratt, il souffre aussi. Il le dit dans ses interviews de cette espèce de regard un peu. Pas méprisant, je dirais pas jusque là, mais voilà, la bande dessinée est un art mineur, on lui fait savoir régulièrement, et il a cette espèce de frustration et quelque part qui accentue sa motivation aussi, hein, de se dire moi je suis un créateur, je suis un passeur d'histoire comme un romancier, et il crée pour ça, voilà, c'est pas seulement quelque chose pour les enfants.
Syndrome de Mickey.
Voilà, exactement, il parle souvent de ses petits Mickey, on me dit tu dessines des petits Mickey, certes, mais alors il va inventer un nom parce qu'il a compris le pouvoir des mots, évidemment, parce qu'il c'est aussi son truc, il va inventer le nom de littérature dessinée. Et c'est un mot qui va être repris et qui va marquer un tournant aussi dans l'histoire de la BD. Et on parle aujourd'hui de littérature dessinée. Il y a même des personnes qui d'après qui le premier album de Cortot, donc La Balade de la Mer Salée, qui sort en 67 sur l'Océanie et qui est quelque chose de nouveau, hein, vraiment dans le paysage de la BD, ce serait un des premiers romans graphiques. On parle beaucoup de romans graphiques maintenant.
Graphic novel. Ce
serait le précurseur du roman graphique. Bah,
pour certaines personnes qui analysent l'histoire de la bande dessinée, c'est comme ça qu'ils le voient. Et c'est en tout cas un romancier qui dessine, si on veut faire un peu court. Je crois que c'est le titre d'un des chapitres du catalogue d'ailleurs. En tout cas, il est sur autre chose. Il y apporte plein de références qui sont des références adultes pour le coup. Alors l'exposition, il y avait aussi ce parti pris. Quel rapport on a avec l'œuvre originale? On est parti sur le noir et blanc parce que Hugo Pratt dessinait uniquement en noir et blanc pour les albums. C'était par la suite recolorisé, évidemment pour des raisons éditoriales, parce que c'est voilà, en couleur ça se vendait mieux. Donc on a joué cette carte planche originale, les 130. En périphérie de la salle d'expo, et puis au centre on s'est autorisé quelque chose d'un peu différent comme vous le disiez par rapport à notre traitement de la bande dessinée. On est parti du principe, on s'est dit c'est quoi la bande dessinée, c'est quelque chose de très intimiste, c'est une expérience personnelle, on rentre dans sa bulle, on plonge dans l'ouvrage, et paradoxalement c'est le très grand format de cette salle, hein, qui doit faire, si je dis pas de bêtises, 14 mètres sous plafond, qui nous permet d'aller plonger dans le dessin, et on voulait vraiment retrouver ça. Voilà.
Donc il y a des agrandissements sur support transparent qui doivent être des plexiglas, c'est très épais, avec des parfois des planches d'un dessin de, on va dire, 5 cm de haut qui deviennent 5 mètres de haut, quoi.
C'est ça,
on voit la force du trait.
Ça c'était l'intuition vraiment de départ de Michel Pierre, hein, qui était donc le commissaire invité et qui était vraiment à l'origine du projet.
C'était un spécialiste du GoPret.
Et qui l'a bien connu.
Il a écrit un peu partout,
qui a écrit beaucoup sur Cortot, qui a écrit beaucoup de préfaces.
On peut le lire actuellement dans la revue Long Cours. Hein,
oui,
Gérald, pour nommer ses concurrents, l'émission matinale à 6h, il a été donc reçu. Il a écrit dans l'encours. Il y a également dans la boutique du musée, il y a la littérature dessinée. D'ailleurs, je crois que c'est le nom de
oui.
C'est un ensemble d'entretiens et on retrouve effectivement MP qui discute avec HP. donc Michel Pierre, c'est grand panneau, c'est ça? Enfin, du moins, c'est son intuition, dites-vous. Je ne sais pas comment nommer
son
ça.
Son intuition, c'est que le dessin de Pratt se prête à ça, à l'agrandissement, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les dessinateurs.
Oui.
Hein. Et pour nous, ça avait un sens profond, puisqu'en fait, nous, l'idée, hein, de l'exposition, c'était d'aller chercher dans les dessins de Pratt, dans les pages des albums, tout confondu. Alors, je tiens à préciser, pas uniquement Cortot, mais tout l'univers de Pratt.
Il est important à côté de Cortot Maltese, cet univers.
Alors, évidemment, Cortot est surreprésenté, parce que c'est un personnage avec qui il avait une relation très, très forte. Cortot, c'est celui qui lui a fait vraiment vivre, financièrement parlant, de son art.
C'est quand même important, non? Il y a 14 tomes, 13 tomes, je crois.
Alors, il y a 12 tomes d'Hugo Pratt, et puis il y a les deux nouveaux tomes qui sont reparus 20 ans plus tard par de nouveaux
dessinateurs
espagnols. Voilà.
Et sinon, les autres hommes du certain an, Jesu Joe et Willing Anne de la Jungle, il n'y en a pas tant que ça. Si, Sergent Kirk.
Kato Zulu, il y a aussi un album qui est très peu connu qui s'appelle Le Dernier Vol sur le Dernier Vol de Saint-Exupéry. Bon, il a produit beaucoup, hein, il a produit. Des grandes séries qui sont hors Cortot. Par exemple, Capitaine Cormoran, c'est son premier rapport avec l'Océanie. Une terre qu'il connaît absolument pas, et ça va être les prémices de La Balade de la Mer Salée 2 ans plus tard, en 67. Mais Cortot, il le dessine assez tard, il doit avoir 40 ans déjà, Pratt.
Ben, né en 27, on l'a pas indiqué tout à l'heure, Hugo Pratt,
ouais, 1927
à Rimini. Il publie, vous l'avez indiqué il y a quelques instants, Balato de la Mare Salata en 1967, et il décède en 95, en Suisse.
Et alors, Cortot naît sous son encre, si je puis dire, quand il a 40 ans, à un moment de sa carrière où finalement il n'en vit pas si bien que ça de son dessin, il a besoin de se réinventer. Et ça va être voilà, le début de quelque chose de vraiment nouveau pour lui, et où il va pouvoir s'asseoir aussi et devenir quelqu'un d'identifié et un maître pour pas mal de dessinateurs. Encore aujourd'hui, on a des témoignages assez touchants de dessinateurs qui parcourent l'exposition, qui viennent nous voir en disant bah, pour moi, Pratt, c'est le maître absolu. Et ça, c'est assez touchant. Mais Pratt, quand il a 40 ans, il dessine depuis plus de 20 ans. Pratt, il dessine tout petit. On expose dans l'exposition. Dans le parcours, un des rares objets qui l'accompagnait. Il n'était pas collectionneur, Hugo Pratt. Mmh. C'est ce très grand scaphandre qui est un objet qu'il avait autour de lui quand il dessinait et qui est important parce que l'image du scaphandre, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Alors, c'est Jules Verne, évidemment. Les récits d'aventure, c'est toute sa jeunesse.
Que son père lui lit,
c'est ça. Son père lui lit en français. Donc, il est très vite polyglotte, Hugo Pratt. Et ce scaphandre, c'est aussi un des premiers dessins qu'il va faire. Il doit avoir 5-6 ans, pas plus. Il raconte ça. Il est avec sa grand-mère, il y a la lagune de Venise, il voit un scaphandrier sortir, elle lui dit « Dessine ce que tu vois ». Et ça, c'est un des moments marquants qui fait qu'il se passe quelque chose en lui, voilà, qui va... Je ne sais pas si c'est définir un destin, mais en tout cas, il va prendre conscience de son rapport au dessin assez fort. Quoi.
Il est totalement autodidacte, hein. Donc il n'a pas fait d'études universitaires, et sa bibliothèque était constituée de 17 000 ouvrages.
Mais c'est ça, mais je pense que c'est lié. En fait, en tant qu'autodidacte, il va conserver, c'est bête à dire, mais une soif d'apprendre tout au long de sa vie. Et en fait, il se plonge dans des sujets, alors parfois en surface, mais souvent en profondeur.
Pas de cours de dessin, pas d'école d'art, rien du tout.
Non, il est autodidacte dans tout ce qu'il fait, effectivement. Il était musicien, enfin c'était un peu ce qu'on pourrait appeler un artiste total, si on va par là, c'était vraiment un tempérament. Après, c'est son histoire aussi, très compliquée, hein, liée à l'histoire même, notre histoire à tous, à la guerre, etc., qui fait qu'il est autodidacte. Parce que c'est aussi un point central qui nous sert de... peut-être d'explication, si on peut dire ça, par rapport à sa biographie, c'est qu'il va, à l'âge de 10 ans, donc il est italien, hein, il est profondément vénitien, né à Rimini, mais vénitien d'ascendance, et son père fait partie de l'armée de Mussolini, et il va partir en Éthiopie, qui est à l'époque occupée par l'armée italienne, et entre l'âge de 10 et 15 ans, il va être...
Non
seulement sur place, mais un peu enrôlé aussi. Il devient presque la mascotte, le jeune Pratt adolescent.
La vidéo le dit à la fin. Oui. Le parcours se termine avec ce documentaire.
Très portrait.
52 minutes de Thierry Thomas.
Très bon,
et moi, il me semble que j'y étais dernièrement avec le passage où, précisément, à l'âge de 13 ans, je crois qu'il est carrément enrôlé, il me semble. C'est ça, vous dites
la
mascotte.
Il fait partie d'une espèce de petite milice comme ça. Et il va être témoin. Alors, c'est des images qui vont évidemment beaucoup le marquer, on peut le comprendre, mais il garde cet attachement à son père naturel, évidemment, est très fort, avec beaucoup de respect pour cet homme-là.
Avec un seul T pourtant, le nom de famille, Pratt.
Oui, alors Hugo Pratt, c'est Hugo Pratt à l'italienne.
Sans le H.
Sans H, sans T. À un moment donné, il va se poser la question, aussi pour des raisons, je pense, de carrière et de rayonnement, d'internationaliser, enfin d'angliciser son nom. Nous, on émet l'hypothèse dans l'exposition que le doublement du T final serait un petit clin d'œil à Milton Caniff, un dessinateur américain.
Avec deux F à la fin,
qui était sa référence, dont on présente quelques planches dans l'exposition. Alors, c'est drôle parce que c'est un dessinateur qui est relativement inconnu de ce côté de l'Atlantique, mais qui est une véritable star aux États-Unis. Et on est très fiers de pouvoir montrer des œuvres originales.
On vous a coupé deux fois là.
Tu as coupé deux fois.
Vous étiez sur le
parcours. Il est traumatisé quand il est milicien en Éthiopie. Il a 8 ans ou 13 ans.
Vous étiez sur le parcours d'exposition aussi.
Et puis là aussi des images très fortes qui vont le marquer. Je sais qu'il va, par exemple, l'armée italienne est plutôt en débâcle à cette époque-là. Pas très ordonné. Les uniformes sont pas rutilants. Et par contre, il y a l'armée anglaise qui arrive. Et alors Pratt est profondément antimilitariste, antifasciste. On peut le comprendre avec l'histoire qu'il a eue par la suite. Mais par contre, l'image des uniformes et l'imagerie des uniformes, c'est quelque chose qui va le marquer beaucoup et qu'on retrouve dans toutes ces dans tous ses ouvrages. Il va illustrer des poèmes de Kipling et les uniformes sont très présents dans ces aquarelles là aussi. Voilà, donc c'est des moments un peu forts. Nous on part de ce point là parce que au moment où il va quitter son père, qui va rester pour le coup emprisonné en Éthiopie, la légende veut que son père lui remette l'ouvrage de Stevenson, L'île au trésor, en lui disant Un jour, toi aussi, mon fils, tu trouveras ton île au trésor. Et ça, pour nous, c'est le point de départ de tout. C'est-à-dire qu'à partir de là, son imaginaire va le plonger dans une espèce de quête comme ça. Alors, il va se noyer dans la littérature d'aventure anglo-saxonne, Stevenson, Conrad, Melville et les autres. Et en fait, à la fin de l'expo, on boucle par « Mon père avait raison ». Donc ça, c'est une vraie citation d'Hugo à la fin de sa vie. « Mon père avait raison, j'ai trouvé mon île au trésor et c'est une vie d'imaginaire et de rencontre. » Voilà. Et on trouvait que c'était une belle histoire à raconter. Et à partir de là, on ouvre tous les horizons, tous les personnages qu'il a lui côtoyé dans sa vie très romanesque aussi, et les objets qui l'ont inspiré sur les différents territoires du monde.
Des objets, alors pourriez-vous en commenter un peut-être, comme vous l'avez fait pour une autre radio concurrente? Vous parliez d'un objet que le musée possède dans son fond et qui se trouve être la... C'est comme ça que s'ouvre... Non, c'est pas tout de suite, ce n'est pas la première image de la balade de la mer Salée, si, la pirogue, c'est ça je crois.
Alors si, on trouvait intéressant d'ouvrir cette partie principale. Alors il y a toute une introduction sur qui est Hugo Pratt, hein, pour quand même un petit peu situer le personnage pour une grande majorité du public, c'est pas forcément...
Ah si, oui, c'est bien ça, oui, la première image. Elle est sur un panneau immense quand on entre dans l'exposition, mais c'est vrai, après ce passage
où on donne chronologique, les clés, les références,
il y a également le portrait, il y a trois vidéos sur Burt Lancaster, sur aussi John Wayne,
cinéma,
je crois,
exactement.
Qui est sur le... Christique sur son radeau, et on voit, je crois que c'est juste au-dessus, on voit effectivement l'illustration que Pratt, on le sait ça ou pas, c'est net, ce sont des inspirations comme ça, où il a vu ces films sortis à cette époque.
Alors séquence à laquelle vous faites vidéo, allusion, ouais. Sur John Wayne, voilà, qui est plus ou moins crucifié comme ça sur un radeau, oui, c'est clairement un petit clin d'œil, hein, de sa part, à un très mauvais film au passage, Le réveil de la sorcière rouge, qui est pas un film qui l'a marqué fondamentalement, mais c'est un petit clin d'œil à John Wayne.
Burt Lancaster qui s'habille
revanche,
aussi, qui reprend
en
ses
revanche,
gens.
Burt Lancaster dans le Roi des îles.
Son képi,
là, c'est une influence beaucoup plus forte et plus ancrée, déjà parce qu'on y trouve Hong Kong, on y trouve l'Océanie, on y trouve vraiment des codes esthétiques, visuels, et puis il y a Burt Lancaster qui enfile sa redingote, sa casquette, et on a Corto là, qui se dessine vraiment.
Il y a
vraiment
des personnes aussi, je crois, il y a un chef de tribu qui lui remet quelque chose,
l'attente
du souvenir, il y a une personne qui vient aussi, et je sais pas, dans cette pose un peu, c'est pas forcément très, très hiératique, mais il y a quand même quelque chose de... Pas du domaine du sacré non plus, mais il y a... Enfin, quoi que hiératique et sacré. Il y a un truc, quoi, ils sont là.
Et puis son rapport aussi à la population locale, c'est-à-dire que Corto, sa force, et c'est comme ça que Pratt expliquait aussi une partie du succès du personnage, c'est d'aller parcourir le monde et d'être un peu partout chez lui. Et d'entrer en contact avec l'autre, quel qu'il soit, peu importe son camp quelque part, d'une manière très humaine, et d'entrer en contact un peu directement, de frère à frère, si vous voulez, c'est une expression qui revenait de temps en temps.
Ça serait peut-être la dimension politique anti-impérialiste du personnage.
Oui,
un voyageur distancié.
Alors c'est quelqu'un qui a un rapport très particulier avec notamment le colonialisme. Il aurait pu faire de Corto un personnage qui lui était contemporain. Or non, il le place à un moment donné où c'est la fin de l'Empire britannique, hein, pour faire simple. Mmh. Et c'est souvent dans des zones comme ça, un peu. Sous emprise coloniale, militaire. Pratt prend évidemment souvent le parti de la population occupée, si je peux dire. Et on le retrouve avec Kush, par exemple, en Éthiopie. Enfin, voilà. Et c'est ce rapport. Mais Corto prend pas une part active non plus, c'est un témoin, quoi. Il assiste de loin, avec une sorte de distance un peu. De dandy aussi, explorateur, un peu romantique comme ça. Et ça permet une lecture de l'histoire qui est complètement fantasmagorique, hein, quand même. Hein, mais,
oui.
Mais à partir d'éléments, quand on creuse, et c'est ça qui est évidemment très touchant dans son œuvre, c'est le... Il y a des références de partout. Et on peut passer à côté, c'est absolument pas un souci. Et puis on peut décider, comme nous on l'a fait pendant un an et demi, d'aller creuser, et à chaque fois qu'on creuse, le bout du tunnel s'éloigne, et c'est génial. Et c'est comme ça qu'on a pu dégager une centaine d'objets, la plupart issus de nos collections, qu'on a aperçus comme ça dans ces pages. Et l'exposition propose ça. Vous le disiez, avec cette première image de la maquette de pirogue océanienne, qui est effectivement l'ouverture d'un album culte, hein, La Balade de la Mer Salée, première case du premier album dans lequel Corto va intervenir, et par la suite changer la vie de son auteur. Et on a joué ce dialogue comme ça, objet, dessin, à une centaine de reprises, en sachant en termes de scénographie, on en parlait tout à l'heure, qu'on avait quand même une sorte d'intuition et de cahier des charges qui voulait qu'on ne voulait pas, dans ce dialogue, qu'il y ait d'équilibre. On voulait que le dessin s'en sorte mieux. C'est-à-dire que c'est une exposition sur le dessin. Oui. On rentre dans l'œuvre de Pratt. Les vignettes et ses dessins ne sont pas des faire-valoir pour montrer nos objets de collection.
Ça aurait été une catastrophe, d'ailleurs.
Non, mais on aurait pu imaginer un dialogue d'égal à égal entre l'objet.
Mais là, on voit quand même.
Là, c'est pas ça.
Non.
Nous, on s'intéresse aux racines de son inspiration, à deux imaginaires qui viennent se confronter, l'imaginaire des musées, des collections, hein, ce qui peut aussi peut-être créer des vocations, j'allais dire, chez nos visiteurs.
Hein. Amateurs de têtes réduites, il y a une tête réduite chez Varro qui vient de la cité de Marseille, la Charité.
Non, c'est la nôtre.
Parce qu'ils les ont restituées, hein. Je crois qu'il était question de les restituer à un moment.
Oui, alors on a restitué dans les musées les têtes maoris, ces fameuses têtes tatouées. Sur les têtes Givaro, mais de toute façon, la problématique des restes humains dans les musées pose question, hein, c'est un vrai sujet.
Question, hein, plein d'actualité.
Et nous, c'est un sujet qu'on étudie avec beaucoup d'attention. Elle est présentée de manière très particulière, l'exposition, c'est-à-dire qu'elle est un peu cachée.
Oui.
Sur la vitrine, on a collé un certain nombre d'éléments visuels qui viennent un peu compliquer sa lecture, donc il faut aller la chercher. Personne ne sera confronté à une tête réduite sans le vouloir. Voilà.
Oui, voilà.
Mais ceci dit, nous semblait important de mettre en scène cet aspect-là aussi de son œuvre, puisque y a des têtes coupées, il y en a pas mal dans les pages de Pratt. Et c'est une expo où il y a beaucoup de têtes, c'est assez drôle. On présente un crâne de cristal qui nous a été présenté par le fameux crâne de Paris, qui est une pièce célèbre.
Il est tout petit.
Il est tout petit parce qu'en fait, on a cette vision complètement transformée par le scénario du dernier Indiana Jones où il joue sur des grosses têtes, mais les crânes de cristal, ils sont de cette taille-là. Voilà.
Un gros point, plus ou moins, c'est vraiment, vraiment mince. Gérald, tu étais en train d'évoquer.
On va poursuivre sur la scénographie tout en faisant là. C'est un exercice difficile. On est à la fois dans ce double personnage fascinant et vertigineux qu'est Hugo Maltès et, Corto Pratt.
C'est ça.
Parce qu'il y a de ça. Et en plus, on parcourt l'expo avec comment ça se traduit, toute cette complexité vertigineuse d'un écrivain, dessinateur, écrivain, c'est la même chose, à travers une scénographie qui se met au service de son génie, en fait.
C'était un enjeu pour nous, la scénographie, encore une fois. Et on a, à Confluence, pour faire un parallèle avec nos autres projets, en général, deux options. Soit on fait appel à des scénographes extérieurs, ce qui est le cas de beaucoup de grands musées, hein. On passe par des concours, etc. On auditionne, on juge le meilleur projet, etc. Ou alors on fait, nous, on a la chance d'avoir un scénographe en interne qui s'appelle Gilles Munier et qui, pour le coup, a joué le jeu de s'attaquer à ce projet. Mais avec un angle un peu particulier, on voulait que le dessin vraiment soit structurant dans ce parcours. Et pour ça, on s'est adjoint les services d'une, on pourrait dire, une direction artistique, enfin en tout cas d'une vision artistique, à travers quelqu'un qui s'appelle Tiffaine Massary, qui est une parisienne qui travaille dans une société de graphisme qui s'appelle C-Album. Et Tiffaine nous a vraiment donné comme ça des grandes images, des sortes de vision comme ça, de l'espace et de la mise en scène, et que Gilles a su traduire avec son équipe ensuite en scénographie vraiment réelle. En termes de mobilier, etc. Pour vous donner une image, le mobilier, il vient, c'est tout en transparence, et finalement les vitrines viennent s'extraire des grands formats. On les voulait comme des cases en bande dessinée en 3D. Donc les cornières sont très assumées, un peu comme le cadre. Et à l'intérieur, l'objet flotte un peu, il est extrait du dessin.
Flotte parfois, on a un sentiment de flottaison, d'immersion en même temps. C'est assez fascinant, c'est vraiment une expo magique, quoi. On est dedans, sans compter qu'on arrive au début, on est avec cette grande carte qui résume un petit peu, qui fait la synthèse de tous les continents et les voyages, qui peut s'allumer pour indiquer les planches et les albums. Et puis on a une pièce qui s'appelle, que vous appelez la lanterne magique, qui est absolument fascinante aussi.
On peut s'y asseoir.
On rejoint les fantasmagories de David Robertson qui terrorisait les Parisiens au XVIIIe siècle.
C'est ça.
Voilà, ou le père Kirchner, l'inventeur de la... Kircher de la lanterne magique, quoi. Et on est dans cette ambiance-là avec tout l'univers du Hugo Pratt.
Ben Pratt, c'est onirique. Et dans cette démonstration qui est le cœur de l'expo sur les racines de son inspiration, les objets réels et ses horizons, on voulait quitter un peu cette réflexion dans une partie un peu autre et aller être un peu contemplatif de son dessin et de son univers et s'attaquer à d'autres thématiques qui étaient un petit peu en marge et qui étaient effectivement la question de l'ésotérisme, du symbolisme, de la transe des corps aussi. Il y a beaucoup de scènes de transe, de rythme, il y a le son aussi, il y a beaucoup de tam-tam, il y a beaucoup
chamanisme.
De chamanisme, il y a son rapport au personnage féminin qui est très fort aussi.
Ah oui.
choisir des personnages qui sont
les séductrices,
hein, voilà,
séductrices,
qui sont des séductrices, mais qui sont des personnages
élégantes.
Oui, qui sont des personnages qui ont quand même un rôle dans le scénario, qui sont pas juste là pour aller séduire Corto, quoi. C'est quand même des vrais personnages forts, d'aventurières, etc. Parfois inspirés de personnages réels, d'ailleurs.
Et, côté James Bond, hein, voilà. Parfois.
Oui, alors
séducteur, c'est son côté séducteur, mais c'est vrai que ce sont des partages très importants.
Il y a un texte, les séduisantes. Oui,
les séduisantes, voilà, pas les élégantes, les séduisantes.
Et ce n'est pas non plus les séductrices.
Et oui.
Un texte de Teresa Crémisi
très riche catalogue.
Le magnifique catalogue. Il y a également un très bel album. J'évoque Teresa Crémisi, il me semble qu'elle était à une époque éditrice de Houellebecq. Est-ce que ce serait le prochain titre qu'on pourrait écouter?
On va peut-être écouter Le Bateau Ivre plutôt, parce qu'il donne.
Il est prêt.
On va écouter un petit extrait, juste le début du Bateau Ivre, pour nous permettre d'écouter d'autres choses à la fin, qui évoqueront le voyage. Lavilliers et Gérard Manset sont des chanteurs du voyage aussi. Et on avait l'embarras du choix avec tout ça.
Il faut que tu dises, Gérald, qui va lire, réciter ce Bateau Ivre?
Léo Ferré. D'arrêter, le morceau fait 13 minutes. C'était donc Léo Ferré qui nous interprétait magistralement, comme souvent, la grande poésie qu'il a interprétée, les Baudelaire, les Apollinaire, les Verlaine. Et là, c'était donc Rimbaud, parce que Rimbaud, c'était aussi cité souvent, c'était une sorte de, pas de modèle, mais le voyageur au sommet devant, c'était un modèle aussi.
Je pense qu'Hugo Pratt avait une fascination pour Rimbaud, c'est sûr. Ne serait-ce que son passage dans la Corne de l'Afrique, le côté obscur de la vie de Rimbaud l'a beaucoup fasciné, c'est sûr.
Et ça revient, texto, des poèmes, des phrases, du bateau Yves, justement.
Et des extraits du bateau Yves.
Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi aussi. Voilà.
Non, c'est un très bon choix.
Je ne sais plus dans quel album.
Eh bien, dans cet album, l'interlocuteur de Corto Maltese lui dit « Ah, c'est quand même dingue, hein, il a vendu des fusils précisément aux types qui sont en train de nous tirer dessus. » Et donc, il vient de lire ce passage du bateau Yves et Corto lui répond « Ah ben, c'est bizarre, je pensais que vous, les officiers britanniques, anglais, vous n'aimiez que Kipling. » Hugo Pratt a également illustré dans une belle édition qui se trouve à la boutique du musée. Il y a un coffret de trois bouquins. Il a illustré des poèmes de Kipling, également bien entendu de la poésie de Rimbaud. Et puis,
il a même illustré des récits pornographiques du 17e, 18e de Baffo, grand pornographe vénitien. Et Manara, parce qu'il avait plein d'amis, Paolo Conte, Manara, Fellini. Dans le grand catalogue, parce qu'il y a un énorme catalogue passionnant, il y a un portfolio qui est aussi très 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 bien fait, des livrets pédagogiques, c'est riche, et il y a un article sur l'amitié entre Fellini et Hugo Pratt.
Encore un peu plus de 5 minutes pour parler avec Johan Cormier, chef de projet de cette exposition, Hugo Pratt, Ligne d'horizon. On évoque beaucoup Corto Maltese, mais il y a d'autres personnages sont présents.
Justement.
Qui se termine le dimanche 24 mars, donc il reste encore du temps pour y aller. Nous, 5 minutes pour en parler avant le souffle des canuts. Je t'en prie, Gérald.
On ne va pas déflorer totalement la scénographie de l'expo, on en a pas mal parlé, mais des quand plans, vous sortez de ce magnifique théâtre optique en forme de grande yourte féerique, dans lequel on pourrait stationner une demi-heure, moi je dirais une bonne demi-heure, si on veut tout voir, toutes les subtilités du montage, avec des choses, un théâtre d'ombre. Boltanski a fait ça il y a des années. Un petit théâtre d'ombre, c'est très inspiré de Robertson, je disais tout à l'heure. Toute cette magie des théâtres optiques d'ombre chinoise. Mais là, c'est toute la galerie de portraits. Il y a la mort qui revient, qui bouge. C'est fascinant.
C'est très
après, on sort. Et là, vous avez une bibliothèque où il y a l'intégralité de ses productions depuis les premières œuvres influencées par Caniff, Milton Caniff, et puis ses maîtres du comics du dessin américain.
Le fameux capitaine, c'est ça, voilà. Le commandant, capitaine Cormoran.
Non, la bande dessinée.
Le Cormoran, c'est bien ça, non, la
première. Capitaine Cormoran, c'est son premier rapport à l'Océanie.
Elle s'y trouve.
Et vous avez une galerie absolument phénoménale. Notre invité va nous expliquer comment ils ont réalisé ça, où il y a la totalité, je crois qu'il y a 340 peut-être portraits frontaux, en gros plan, de tous les personnages qu'a inventé, on va dire, Hugo Pratt.
Oui, c'était un petit challenge qui a été lancé par Patrizia Zanotti, sa coloriste, et puis qui est aujourd'hui à la tête de sa société. Patrizia s'était dit que la meilleure, enfin, et c'était une très bonne idée, le meilleur moyen d'aller illustrer la richesse de cette production, hein, qui, c'était de faire une sorte d'état des lieux de tous ces personnages. Alors on pouvait pas tout mettre, il aurait fallu des milliers de portraits. Donc l'angle, c'était de se dire tout album confondu, c'est de prendre les personnages qui ont un nom, qu'il a nommé. Donc, qui fatalement ont au moins un petit rôle dans le scénario de ces aventures. Et on doit être à quelque chose comme 390 portraits qui sont là, étalés devant nous, qui nous regardent. Il y en a pas un qui se ressemble. Et c'est assez génial. On voit là, pour le coup, on voit vraiment le talent du dessinateur, quoi. Et c'est des personnages qui sont, c'est drôle, hein, sa manière de créer ces personnages aussi. Ces personnages qui sont issus de gens de son entourage, qu'on peut reconnaître quand on connaît un peu ses photos d'archives, soit des personnages historiques dont il a travesti l'identité. Ou pas, parfois il y a aussi des personnages qui sont là comme, Saint-Exupéry est là par exemple, Jeanne d'Arc, enfin on retrouve vraiment, parce qu'il est parti dans différents délires.
Comme Uderzo Goscinny s'amusait de mettre des caricatures dans
c'est ça. Alors on est sur un mode qui est moins proche de la caricature, mais c'est le réel qui vient un peu s'entremêler à son univers à lui. C'est toujours un jeu entre le vrai et le faux, hein, c'est un peu l'idée. Et ces personnages, c'était aussi une des raisons pour laquelle on n'a pas dédié l'exposition uniquement à Corto Maltese, mais à l'intégralité de son univers. Ça nous permettait de montrer cette profusion des albums un peu moins connus, comme Wheeling, qui est un album assez génial, hein, sur les guerres de frontières entre les Amérindiens,
Et très documenté, parce que Michel Pierre a dit qu'il aurait pu participer à des colloques sur Wheeling.
Il l'a fait,
il est allé
à Wheeling.
Grand spécialiste de la question.
Il est, pour un autodidacte, on le disait tout à l'heure, il était à ce point passionné par certains sujets, et notamment l'histoire du continent nord-américain pendant cette période 18e, etc., qu'il est devenu vraiment spécialiste, et on le faisait venir pour faire des conférences. Et c'est d'ailleurs le seul autoportrait qu'on connaît d'Hugo Pratt, c'est Pratt dessinait un renégat, un personnage qui s'appelait Simon Gertie, qui est un personnage historique. C'était le blanc passé du côté des Indiens. Mmh. Donc ça, on dit aussi long sur son auteur. Mmh. Et qu'il fascinait, il s'est dessiné, il lui a prêté ses propres traits.
Ah, intéressant, il s'est glissé son autoportrait dans les personnages.
Je suis sur ses portraits, je trouve à la page 63 ainsi qu'à la page 66, je trouve Morgana dos Santos, qui s'y trouve deux fois. Mais bon, allez voir au musée, ça c'est seulement le catalogue que j'ai entre les mains. Et puis je trouve un personnage comme ça, peut-être Cole, que je pourrais vous lancer, Rico Rico. Où est-ce qu'il apparaît?
Alors ça, c'est de la colle.
On va faire des quiz aussi.
C'est dans Les Celtiques, puisque c'est le personnage qui interprète. Quoique non, je dis Les Celtiques, c'est peut-être pas Les Celtiques en fait. Si, c'est avec la traîtresse qui, dans les marionnettes, il y a d'ailleurs une poupée de bois.
Alors c'est cette fameuse pièce de théâtre. Et en fait, nous, on fait un petit clin d'œil à ça. Je vous parlais tout à l'heure du scaphandre. Et le deuxième objet qui lui appartenait et qui est dans l'exposition, c'est une marionnette sicilienne. Il avait une espèce de... Alors c'était un cadeau qu'on lui avait fait.
Les cartels sont très bien faits, c'est expliqué.
Il avait cette passion pour les marionnettes. Michel Pierre nous vous expliquerait que entre le scaphandre et la marionnette, ce qui sont quand même deux objets qui sont reliés comme ça par un fil, il y a un côté un peu démurge un peu quoi. Il joue avec ses personnages, avec ses silhouettes, et c'est sans doute ce qui l'attirait dans ce côté. Voilà, l'homme n'est jamais qu'une marionnette.
Et d'ailleurs, il le dit en exergue du catalogue Lignes d'horizon, au pluriel bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup d'horizons et beaucoup de lignes. En même temps, c'est un dessinateur tellement pointu, synthétique, minimaliste. C'est quand pur. Il dessine en noir et blanc, il n'y a pas de gris intermédiaire. Mmh. C'est les hachures, même pas de hachures qui font le gris visuellement. Quoi. C'est très fort. Il dit en exergue donc, je raconte la vérité comme s'il s'agissait d'un faux, à la différence de beaucoup d'autres qui racontent des choses fausses en voulant qu'elles soient vraies. C'est là qu'elle devient double, triple, et le lecteur comprend ensuite que quelques-unes des choses que j'ai dites étaient vraies, et alors, c'est avec un intérêt plus grand qu'il part à leur recherche.
C'est exactement ça.
Hugo Pratt, interviewé par la télévision suisse-italienne, entretien diffusé le 26 janvier 1995, à la veille de sa mort. Ouais, donc d'une longue maladie. Mmh. Voilà.
Bon. 15h, il n'y a pas de Blues des Canucks qui est là.
On va pouvoir écouter un dernier morceau de musique.
Moi, j'en ai pas. Moi, j'ai le générique.
On va mettre quelque chose. Et je vous invite à lire Fable de Venise chez Casterman dans l'édition en français, si vous lisez le français. Mais vous pouvez le lire en italien, si vous lisez l'italien. Des pages très, très intéressantes sur la dimension ésotérique, tout le rapport qu'il entretient à Venise. Quartier Baraggia, il me semble, ou à sa grand-mère, le quartier juif, le ghetto, etc. Et c'est passionnant. Avant de lire la BD, il y a un bel appareil de présentation signé de sa main. Et puis, bon, beaucoup de voyages immobiles et impact écologique zéro en perspective.
Gérald, qu'est-ce que nous écoutons? Parce que moi, je m'apprêtais à dire que je connais des snobs qui sont allés chercher leur Favola di Venezia, qui sont allés le chercher à Venise même. Ça peut être très, très bien. Il y a plein de librairies là-bas. Oui, d'ailleurs, dans Fable de Venise, vraiment, les lieux géographiques, vous disiez tout à l'heure, hors antenne, Johan Cormier, sont très... fidèles. Enfin,
oui, c'est des lieux réels. Il y a cette fameuse petite cour un peu secrète, un peu magique, voilà, à qui on prête une porte secrète qui peut nous emmener sur un autre monde. Et c'est quelque chose qui c'est la cour des chats aussi, un petit clin d'œil à ça dans l'exposition. Ouais.
Notre quota hebdomadaire de musique française va être respecté, puisque après Nino Ferrer et Léo Ferré, nous allons écouter un grand chanteur de voyage. Alors, je sais pas, peut-être la dernière période où il parle vraiment du voyage. C'est avant, peut-être, ses grands voyages. Mais c'est quand même pas mal, des pays faciles et des pays dociles. Ce serait presque recontextualiser toute cette période trouble coloniale qui a servi d'imaginaire créatif et de puissant fin à Hugo Pratt pour créer son personnage de Corto Maltese, La Zone. Extrait de l'album Les Barbares de Bernard Lavilliers.
On ne se dit pas au revoir tout de suite, alors, Gérald.
On pourrait dire que la semaine prochaine, on continue le voyage avec Philippe Sardi. Allez voir l'exposition à L'Œil Écoute jusqu'au 3 février. C'est magnifique. C'est un graveur très connu à Lyon. Ceux qui vont au marché de la création le connaissent. Il y a l'imaginaire du fleuve. Il publie un magnifique ouvrage, Eau Forte, préfacé par Eric Corsena avec un texte de Pierre Gras. Il sera là avec peut-être une nouvelle galeriste, parce que L'Œil Écoute, très bonne galerie dont on a déjà parlé sur cette antenne, devient une galerie. Et allez voir ces gravures qui sont somptueuses et qui font encore voyager le Canada, même au lac de Miribel devient un chef-d'œuvre absolu de gravure parce que c'est un grand artiste.
Spectaculaire, parle également de spectacle. Allez peut-être à l'Opéra de Lyon pour voir De la Maison des Morts de Léo Janáček. Ça a commencé ce lundi, lundi 21 janvier. Ça se continue jusqu'au 2 février. Ce sera, je crois bien, un samedi. Il y a également d'autres spectacles encore à venir au Théâtre Célestin un peu partout. Mais je pense que déjà, on l'a dit Gérald, il faut aller au Musée des Confluences et même y re-aller. Oui. Et encore y re-aller aussi à 17h. Certes, c'est proche de la fermeture, mais il vous reste encore une heure pour bénéficier d'un tarif réduit. Vous ne payez plus 9€, mais plutôt 6€. Et vraiment, une heure, c'est peut-être suffisant, mais pour se perdre...
Gratuit pour les enfants, vous pouvez y aller avec des nourrissons, des enfants de 2-3 ans, c'est magnifique, ils vont adorer le théâtre optique.
Si on veut voir les coléoptères, il faut y retourner alors, c'est encore une autre exposition, c'est ça. Et puis les Yoka
Inoshima.
Voilà, Yoka Inoshima.
Esprit du Japon.
Ça fait beaucoup de choses. Merci. Johan.
Merci à vous, merci beaucoup.
Gérald, allez, on laisse notre invité. Pas de générique de fin, restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. Oui, on écoute Don Bernard Lavillier, bien entendu. Wow. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. Peut-être Bouze des Canu à venir dans quelques instants. Mayday ensuite, on n'arrête pas le prog à 17h. Le Mayday, je crois, est-ce que je l'ai dit. Mayday à 18h, et puis Canu à fois 19h, et puis voilà, c'est tout.
Restez couverts parce que la neige pourrie, c'est pire que la neige.
Merci, Corto Maltese, Hugo Pratt, c'est très bien. Merci, Johan.
Merci beaucoup, merci. À la prochaine.
Au revoir.
Assassine, sortez des ongles sombres venins. Marchez sur les trottoirs honnêtes, infestez les parcs et les trains, forcez les portes et les fenêtres, rincez-vous donc dans le parfum. Et sur des tombes bien proprettes, riez beaucoup et pissez bien. C'était de braves gens honnêtes, bien installés dans le chagrin. Nous sommes des loups avides de fêtes, c'est nous qui fauchons le butin. Une crinière sur la vitesse et le vide autour de nos mains. Notre destin, nous sommes nés sur des planètes que vous nous construirez demain. Nous sommes longs, longs et flexibles, rapides et sûrs, sûrs et certains, que le soleil de l'impossible va nous anéantir demain. Et nous bronzons sous son regard. Notre terre n'est plus qu'une cible. Il n'y a pas d'issue possible. Il n'y a pas d'issue possible. Et nous fonçons dans le brouillard. On la consomme comme un béguin. Elle roucoule, elle déconne, elle éjacule, elle fait du bien. Et dans la nuit de l'Amazone, la solitude. Nos enfants ne vivront pas vieux. Ils sont très beaux, mais ils s'effacent. Ils ne rient pas avec leurs yeux. Ils ne s'arrêtent pas, ils marchent. mise à feu.